Alors, la paracha de cette semaine relate un épisode de la sortie d'Égypte extrêmement connu. Et je pense que même sans avoir votre Bible ce matin, vous connaissez cet épisode emblématique de la sortie d'Égypte, à tel point que peut-être certains se demandent s'il est encore possible de tirer un enseignement un petit peu inédit. Tant on a peut-être rabâché ce texte, ce récit, de façon presque mécanique depuis tant d'années. Alors, avant de poursuivre, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une petite histoire. Blague. Hein, parce qu'elle est vraiment en relation avec notre sujet, donc ça tombe très bien. Et je trouve que c'est quelque part quelque chose d'assez éclairant. Donc, c'est l'histoire du petit David, qui a 8 ans, et qui va à la yeshiva, et qui est le fils du rabbin. Et il va à la yeshiva, et puis il revient de la yeshiva, donc l'école talmudique, l'école où il apprend la Torah. Et puis son père lui demande, « Alors David, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à la yeshiva ?» Et puis le petit David qui raconte, il dit, « Ah, mais aujourd'hui, on a vu la sortie d'Égypte. » « Ah oui, très bien, c'est très intéressant. » Continue, mais quoi, toi d'autre encore ? Il dit, ben, on a rappelé comment le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge et comment il a traversé la mer Rouge. Dit, ah oui, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le rabbin s'attend à ce qu'il lui raconte tout le récit, enfin, bien connu. Et là, le petit David, il raconte et il dit, ben voilà, le Seigneur a mis des péniches de débarquement. Et puis, alors, le rabbin commence à s'inquiéter, il dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et puis les Israélites sont montés dans les bateaux, et puis les avions étaient là pour couvrir face à l'armée égyptienne. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, le rabbin dit, c'est vraiment ça qu'on vous a raconté à la yeshiva ? Et alors le petit David dit, non, non, mais si je te racontais la vérité, tu ne me croirais pas. Alors bien sûr, on a un peu cette vision d'un Charlton. Qui c'est qui n'a pas vu le film avec Charlton Heston ? Qui donc guide le peuple d'Israël dans le désert et qui arrive devant la grande mer, et puis bien sûr la musique, enfin, vous voyez toute l'ambiance, et Charlton Heston qui brandit le bâton et puis paf, là, qui fend la mer, et les Israélites qui traversent la mer, et les Égyptiens qui suivent et qui finalement se font engloutir dans la mer. Bon, vous connaissez toute cette histoire et peut-être que vous avez un peu ça à l'esprit. Alors évidemment, le récit biblique est un peu moins hollywoodien, mais quand même, il raconte un certain nombre de choses. Et il me semble cependant important de nous souvenir dans quelle perspective nous est raconté ce récit. La paracha débute par la fin, finalement, du conflit qui oppose les Égyptiens à Israël et qui se solde par la mort constatée des Égyptiens sur le rivage. Les Israélites ont vu sur le bord du rivage de la mer les Égyptiens morts qui gisaient là. Et ce, après la traversée à pied sec de la mer. Et quelques chapitres plus loin, donc à la fin de notre paracha, c'est la clôture de cette paracha par la guerre contre Amalek et son peuple, qui vient clore un peu cette lecture parachotique. En fait, un épisode guerrier aux accents finalement assez différents. Guerre contre Amalek, ce n'est pas tout à fait la même chose que celle contre les Égyptiens. Et puis entre les deux, il y a une succession de joies et puis d'amertume, de tentations et de miracles extraordinaires. Alors le lecteur peut se demander avec raison le sens de ce récit chaotique des Israélites dans le désert. D'autant que certains détails posent question, et notamment l'épisode des cailles. Des cailles qui, ici, est simplement mentionné sans autre explication, sans autre détail. Contrairement, d'ailleurs, à un autre épisode, semblable dans le Livre des Nombres, qui, lui, est, en revanche, riche de détails éminemment importants sur le plan spirituel. Donc, dans le Livre des Nombres, c'est le chapitre 10 et 11, qu'on a ce récit. Mais je crois nécessaire de souligner, finalement, le triple objectif du récit dans le livre de Shemot, et ici en particulier, de Shemot, de l'Exode. D'abord, premièrement, l'auteur, qui est sans doute Moshe, veut rappeler d'abord l'essentiel du cheminement historique des Israélites lors de leur sortie d'Égypte. D'où une narration chronologique qui précise avec détail les temps et les lieux des événements. Et pour ce qui concerne notre récit, nous en sommes en fait au tout début, les premières semaines après avoir quitté l'Égypte. Deuxièmement, indiscutablement, il y a des détails sémantiques et des nombres qui rappellent la dimension prophétique du passage, comme pour rappeler aux Israélites leur rôle futur dans l'histoire, une forme d'encouragement autant que d'avertissement. Et puis troisièmement, enfin sur le plan spirituel, l'image collective d'un peuple avec ses chutes et l'intervention bienveillante de Dieu au moment les plus opportuns donne un aperçu de ce que peut être l'expérience spirituelle de chaque individu. Un cheminement vers la liberté promise, la rencontre avec son Dieu. Ces objectifs clairement posés, la lecture du texte sera autrement plus intuitive et dépassera la seule surface du récit épique. Alors lisons à présent le début de cette paracha Béchalach, Exode chapitre 13, à partir du verset 17. On va lire d'abord les versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Soukhot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors il peut sembler un peu étrange que nous soit racontée ici la réflexion divine qui consiste à ne pas faire emprunter par les Israélites le chemin le plus court pour se rendre vers leur destination finale. Alors il faut se rappeler d'abord, premièrement, que l'objectif premier des Israélites est d'abord de se rendre à 3 jours de marche pour aller adorer le Seigneur, et même en l'occurrence recevoir la loi. Ça, c'était ce qui avait été présenté à Pharaon, notamment. Et pour les Israélites, c'est l'objectif premier, aller à la rencontre de Dieu. Et puis deuxièmement, et c'est un objectif un petit peu plus lointain, eh bien, c'est de se rendre au pays de la promesse qui est situé au-delà de ces 3 jours de marche. La crainte de Dieu est double. Le peuple pourrait, effectivement, d'abord s'effrayer de la guerre qui l'attend et vouloir rebrousser chemin. Et donc, emprunter le chemin qui conduit jusqu'au pays des Philistins n'était peut-être pas le plus évident. Mais si Dieu sait à l'avance toutes ces choses, se peut-il qu'il s'en ouvre à Moïse pour simplement le mettre au courant. Vu que c'est la nuée et la colonne de feu qui guident le peuple, était-il vraiment nécessaire d'en informer Moïse ou le peuple, qui de toutes les manières ne s'imaginait pas s'écarter de la présence de Dieu pour prendre le chemin le plus court? On a du mal à imaginer le peuple se dire « Ah bah tiens, la nuée, elle va par là, nous on va par là. » Bizarre. En fait, le plus important, comme on va le voir, c'est d'empêcher le peuple de revenir en arrière et de retourner en Égypte. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, la mission la plus difficile de Moïse n'a pas été de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte idolâtre, mais d'empêcher qu'il y retourne. La tradition juive évoque plusieurs arguments à ce renoncement à emprunter l'itinéraire le plus court. L'un d'eux est la crainte de se livrer à une guerre avec les Philistins, qui sont en fait les descendants d'Avimélec, avec qui Abraham avait fait alliance quelques générations auparavant. L'autre est celui d'être effrayé en découvrant les ossements d'une partie de la tribu d'Éphraïm décimée dans une guerre 30 ans plus tôt. Je vous passe les détails, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans une tradition juive, parce qu'ils s'imaginent que les sages de la tribu d'Éphraïm avaient mal calculé la date du retour des Israélites. Ils l'avaient fait compter à partir d'un certain moment, et donc ils s'étaient trompés de 30 ans. Et en allant par le chemin des Philistins, ils s'étaient fait décimer par les Philistins. Mais bon, ça c'est un argument qui peut paraître, à mon sens, un peu léger. Mais si l'on tient compte des dimensions prophétiques et spirituelles du récit, on peut y discerner quelques autres subtilités, comme le racontent d'ailleurs les principaux commentateurs juifs. En hébreu, l'expression « derech eretz » peut se traduire par « le chemin du pays » ou « le chemin de la terre ». Et plus encore que le sens littéral, cette même expression peut signifier « l'habitude du monde ». Si bien que Hafetz Chaim, qui est un célèbre commentateur juif du 19e siècle et du début du 20e siècle, évoque ici le chemin de l'habitude ou le chemin de la normalité, le chemin naturel en quelque sorte. D'aucuns diraient qu'il y a un chemin logique et naturel et le chemin qui, lui, au contraire, est irrationnel, celui du désert. Ça semble assez irrationnel de conduire tout un peuple pour aller dans le désert. Sur le plan spirituel, les commentateurs indiquent que le chemin du pays des Philistins aurait pu même aussi affecter gravement le peuple sur le plan spirituel, tant l'idolâtrie y était grande, tout comme en Égypte. Et celui-ci aurait pu constituer le chemin de l'assimilation spirituelle et un naufrage sur tous les plans. Le monde est pareillement aujourd'hui le terrain par excellence de la facilité et de la déroute spirituelle. C'est l'entrée dans le moule naturel et l'entraînement dans le courant qui éloigne de la pensée de Dieu. Seuls ceux qui ont appris à le faire au travers de l'épreuve sont capables de résister à l'entraînement naturel et capables en quelque sorte de remonter le courant. Le chemin du désert est en apparence autrement plus hasardeux. Et pourtant, c'est celui de l'apprentissage et de l'initiation aux voies divines. En hébreu, midbar, qui se traduit par désert, peut aussi signifier parler dans. Ou parce que ici, dans midbar, vous avez le terme daver ou daber, qui signifie parler. Ce qui peut vouloir dire que dans le désert, Dieu parle. Le Midrash est donc plus perspicace et voit donc dans le choix de l'itinéraire, en quelque sorte, une prévention spirituelle, un cheminement intentionnel de Dieu pour préparer le peuple à recevoir la Torah et à grandir dans sa foi. Mais poursuivons au chapitre 14, versets 5 à 15. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent !» Alors, nous connaissons le récit et l'apparent égarement du peuple dans le désert, évidemment, n'en est pas un. Dieu a clairement l'intention de se glorifier aux yeux des Égyptiens et aux yeux de son peuple et délivrer une fois pour toutes le peuple d'Israël de la pression des Égyptiens qui se trouvent à leurs trousses. Face à une armée égyptienne qui les presse par derrière, la mer devant eux et les montagnes tout autour, on peut dire que la situation semble désespérée. Littéralement sans issue même. Comment aurions-nous réagi en pareilles circonstances? Ne serait-on pas tenté de juger un peu vite les Israélites, ingrats et manquant de foi alors qu'ils avaient vu de leurs yeux des prodiges extraordinaires et des jugements terribles contre les Égyptiens et leurs divinités? Et pourtant, les voilà prompts à repartir chez leur maître d'antan. Verset 11, ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » À la place de Moïse, je me serais mis en colère. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Selon le Midrash, la réaction des Israélites est en réalité triple. Certains, en effet, veulent se rendre aux Égyptiens, tel que cela nous est raconté, et retourner au pays d'Égypte. Et puis, il y en a d'autres qui veulent se battre avec les armes, quoiqu'il ne soit pas un peuple qui soit rompu aux arts de la guerre. Ce n'est pas un peuple qui a l'habitude de combattre. C'est un peuple d'esclaves au départ. Et puis, il y a un troisième groupe qui, lui, souhaitait tout simplement prier et donc crier à Dieu pour qu'il les délivre. Au sein de l'épreuve, quelles qu'aient pu être les expériences passées, les réactions sont variées et pas toujours reluisantes. Il faut bien en convenir. Être témoin des miracles les plus grandioses ne rend pas forcément plus courageux. Mais ce qui compte finalement, c'est l'action. Comme d'ailleurs le dit à la fin du verset 15, il dit « Va parler et mettez-vous en marche !» Enfin, restez pas statique, quoi. Le Midrash raconte d'ailleurs l'histoire, cependant, de Narshon ben Amidadav, qui est lui-même d'ailleurs mentionné dans Nombre 10, verset 14, et qui est un chef de la tribu de Juda. Donc le Midrash raconte que c'est un homme convaincu que Dieu veut conduire le peuple pour recevoir la Torah et que le chemin pour y parvenir passe inéluctablement par la mer qui est devant eux. Alors il se jette dans l'eau et avance là, comme ça, progressivement, jusqu'à avoir de l'eau jusqu'au cou. Et il croit fermement que Dieu va ouvrir la mer pour leur ouvrir le passage à pied sec. La suite, on la connaît, et finalement, tout le peuple va se mettre en marche et traverser la mer. Alors, ici, le récit midrashique est probablement un peu enjolivé, mais il n'en demeure pas moins intéressant à plus d'un titre. Comme on l'a déjà dit, les commentateurs juifs comprennent le récit comme un cheminement spirituel exemplaire. La traversée de la mer à pied sec est une étape en quelque sorte sans retour possible. Le vrai pas de la foi est celui qui ne permet pas un retour en arrière. Évidemment, le peuple, une fois qu'il aura traversé la mer et que la mer aura retrouvé sa place, n'a plus moyen de revenir en arrière. L'apôtre Pierre donne un indice intéressant dans 1 Pierre 3, 21. Verset 21, « Cette eau était la figure du baptême, et ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Alors, dans ce passage dont parle Pierre, il n'est pas question de la sortie d'Égypte, mais du déluge. Et il parle là de Noé, de son arche et de l'expérience du déluge, qui en quelque sorte est l'intervention divine pour juger par les flots les hommes pervers de ce temps. Mais dans le cas du miracle de la traversée de la mer à pied sec, le peuple échappe par un acte de foi au jugement qui devait survenir, et ce sont des Égyptiens, finalement, qui périssent dans les flots. Le miracle de la traversée par tout le peuple de la mer, à pied sec, donc, restera gravé dans les mémoires longtemps, comme le pas de la foi, le pas de la foi sans retour. La marque d'une marche en avant qui ne s'arrêtera plus, quand bien même les tentations du retour en Égypte seront grandes et persistantes. Quoique les tentations seront là, il n'y aura plus réelle possibilité de revenir en arrière. En hébreu, le terme « nes », qui se traduit par « miracle », signifie aussi un « mât », comme le mât d'un bateau. En d'autres termes, un point de repère qui se voit de loin. Et donc ce miracle est en quelque sorte dans la conscience et dans l'esprit des Israélites comme un mât qui se voit de loin, même quand le temps aura passé. Dans la vie spirituelle du peuple d'Israël, il fallait un mât, un point de repère bien tangible, qui puisse lui rappeler que cette sortie d'Égypte est bien un voyage sans retour. L'acte de naissance du peuple de Dieu, quand bien même d'autres étapes vont encore marquer la vie du peuple. Exode 14, versets 30 et 31. « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Et verset 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. La conclusion de cette longue journée est de toute évidence marquée par la joie et la foi véritable du peuple dans le grand miracle de Dieu. Les Égyptiens gisant morts sur les bords de la mer sont l'assurance que ces derniers seront réduits définitivement à l'impuissance contre eux. Sur le plan spirituel, le premier pas de la foi ne consiste pas seulement à voir l'action puissante de Dieu dans la vie des Israélites. Il s'agit aussi de voir l'ennemi vaincu. D'où la nécessité de voir les Égyptiens gisant morts sur le bord de la plage. Si jusque-là, la marche avec Dieu avait paru être une fuite devant l'ennemi, à présent, la marche avec Dieu sera apaisée et une conduite tournée vers l'avant. La vie spirituelle du croyant ne doit pas être une crainte perpétuelle du mal et un regard continuellement rivé sur les rétroviseurs de nos vies, vers l'arrière ou vers le passé. Il doit à présent être tourné vers l'avenir, le futur et la marche en avant. Cette marche-là est éminemment plus positive et évidemment bien plus constructive. Moïse, le conducteur du peuple d'Israël, figure prophétique du Messie conduisant son peuple, et ici au chapitre 15, verset 1, l'auteur de ce cantique de reconnaissance chanté avec le peuple. Et en hébreu, le premier verbe chanté, en français ici au pluriel, ils chantèrent, mais en hébreu, il est au singulier, comme pour souligner l'unité spirituelle entre le peuple et son conducteur. Il en est souvent ainsi au début de la marche avec Dieu, mais il en sera aussi ainsi dans les temps de la fin, lorsque le cantique de Moïse sera chanté avec le peuple des rachetés, dans Apocalypse 15, verset 3. Mais poursuivons, chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alors, après l'euphorie de ce jour magnifique, cette traversée de la mer à pied sec, eh bien, ce point de départ remarquable, en quelque sorte, eh bien, il faut quand même avancer. Et ici, dans le récit, les chiffres, ou les nombres, ont une grande importance. Les Israélites vont à la rencontre du Dieu vivant dans le désert. Ce devait être au bout de 3 jours de marche. Or, après ce délai, c'est la déception. Le désert leur offre étrangement un point d'eau, certes, mais d'une eau amère, imbuvable. L'amertume de l'eau est comme contagieuse et sous la pression de la soif, c'est leur âme qui est à présent amère. D'un sommet spirituel, le peuple descend d'un seul coup vers le gouffre de l'amertume spirituelle. Et ce n'est qu'un début. Le murmure et les regrets reviennent aussitôt. D'un point de vue prophétique, le chiffre 3 a valeur de symbole. Il est celui de l'épreuve, de l'attente, avant la délivrance et le salut. Et je ne citerai que quelques exemples, juste pour illustrer cette idée. On a Joseph qui passe, selon un midrash, 3 jours et 3 nuits dans la citerne, alors que ses frères l'avaient jeté dans la citerne. C'est pas dans la Bible, mais c'est dans un midrash. Joseph qui met à l'épreuve aussi ses frères, 3 jours et 3 nuits en prison, en Genèse 42, verset 17. Il les met à l'épreuve quand ils reviennent la première fois pour acheter de la nourriture. Et puis nous avons la plaie des 3 jours de ténèbres complète dans Exode 10. Verset 22. Les 3 jours avant de traverser le Jourdain en direction de Jéricho, en célébrant la Pâque, encore avant cela, dans Josué 1, verset 11. Et puis, bien sûr, plus connu pour Jonas, qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas 2, 1. Et puis la foule devant Yeshua, qui patiente 3 jours sans manger avant le miracle de la multiplication des pains, Matthieu 15, 32. Bien entendu, les 3 jours avant la résurrection de Yeshua lui-même, Marc 10, 34. Ou Paul, encore, qui demeure 3 jours sans voir et sans manger après sa conversion dans Acte 9, verset 9. Autant d'exemples qui nous ramènent à l'idée que 3 jours signifient 3 jours d'épreuve, de patience avant la délivrance ou le salut. Les 3 jours passés par la soif sont donc une mise à l'épreuve de la foi du peuple en son Dieu capable de faire jaillir de l'eau toujours au moment opportun. Les eaux amères produisent l'amertume et curieusement, la réponse de Dieu est celle d'un bois. D'un bois que Moïse doit jeter dans l'eau pour rendre l'eau douce et consommable. Le texte biblique ne dit rien de particulier sur ce bois. Mais le Midrash lui indique cependant que ce bois était lui-même amer. Que ce bois était donc amer et que Moïse devait le jeter dans l'eau amère pour rendre l'eau douce. Comment donc ce qui est amer, joint à ce qui est amer, peut-il rendre doux ? Rashi relie ce bois amer au premier rudiment de la loi transmis aux Israélites. Mais encore, faut-il y voir ici une allusion plus prophétique ? Je me permettrai une hypothèse que j'estime intéressante à creuser peut-être. Si l'amertume est ici le symbole de l'impur, comment l'impur peut-il rendre pur ? Sauf à imaginer que le bois est ici l'image de la souffrance portée par le Mashiach qui a pris sur lui le péché des hommes pour rendre pur l'homme qui boit à sa source. Le Midrash va plus loin en soulignant que la soif du peuple dont il est question ici est tout autant spirituelle que physique. C'est pourquoi Moïse donne au peuple en ce même lieu des lois et des ordonnances que l'on qualifie habituellement de chukim, c'est-à-dire des lois qui n'ont aucune justification rationnelle, qu'il faut prendre comme elles sont. Ces lois sont en quelque sorte une mise à l'épreuve du peuple qui doit faire confiance à Dieu pour ses besoins les plus élémentaires, comme l'eau et la nourriture de chaque jour. Et je trouve important de bien relever que ici notre récit, au-delà de l'aspect narratif et historique, a une portée prophétique, a une intention prophétique de Dieu. D'où ces nombres, d'où ces éléments qui peuvent paraître un peu énigmatiques, comme ces trois jours, ou ce bois amer, en tout cas selon le Midrash. Et Dieu conclut par une formule assez étrange. En donnant ses lois, il dit ceci. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Dieu avait jugé les Égyptiens à cause de leur idolâtrie, de leur péché. Et Dieu de poursuivre, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Prenez place ici. S'agit-il plus d'un avertissement ou d'un encouragement, d'une mise en garde devant toutes les plaies dont ils ont été témoins contre les Égyptiens? D'un côté, Dieu ne frappera pas les Israélites de toutes ces maladies. De l'autre, il est celui qui guérit les Israélites. Que faut-il comprendre sinon que la guérison de l'Éternel est justement ce qui préserve le peuple de la chute irrémédiable à l'instar de celle des Égyptiens. Le pas de la foi des Israélites est l'assurance de la guérison de la part de l'Éternel, mais il est aussi en quelque sorte la force du peuple pour accomplir toutes ces mitzvot, tous ces commandements. Parce que Dieu guérit, je peux obéir. Parce que Dieu guérit, je ne serai pas touché par les maladies ou par le jugement qui aurait dû m'être destiné. Quel message fort que ce verset 27. Ils arrivèrent ensuite à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alors, les 12 sources d'eau sont unanimement reconnues comme les 12 tribus d'Israël. Ici, les chiffres ont des valeurs symboliques évidentes et prophétiques. Les 12 tribus d'Israël qui irriguent les 70 nations, c'est-à-dire le monde. Clairement, Dieu révèle au peuple son rôle futur prophétique et prophétique de transmetteur de la Torah et de la révélation du salut. À l'instar de ce qui est dit d'ailleurs dans Exode 19, verset 6, quand Dieu dit au sujet du peuple, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Si dans le temple, quelques sacrificateurs jouaient le rôle de communicateurs de la loi, si on peut dire les choses ainsi, à tout le peuple, ici c'est tout Israël qui devient, en quelque sorte, des sacrificateurs pour l'ensemble du monde. Voilà une responsabilité qui forgera durablement les esprits des Israélites et affirmera leur rôle, quand bien même ils ne vont pas toujours le remplir de façon parfaite. Poursuivons, Exode 16, versets 1 à 15, un peu plus long, c'est intéressant. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Quoi, c'est pas tellement longtemps après leur sortie, hein. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Une nouvelle fois. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété ? car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront le jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété. » Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Alors nous voilà à nouveau confrontés à un nouveau sursaut dans l'état spirituel du peuple. Il replonge une fois de plus dans l'amertume et réclame à présent de la viande et du pain. De la viande et du pain. Et pourtant, comme précisé au verset 1, cela ne fait pas si longtemps qu'ils sont sortis d'Égypte. On croit assister ici à un enfantillage spirituel sur des besoins basiques que sont le manger et le boire, la nourriture. Le Midrash de préciser que la crainte de manquer conduit à l'insoumission. C'est que de la viande, ils en possèdent encore, avec le bétail qui le suit. D'où vient donc cette insatisfaction, sinon par la crainte effective de manquer de quelque chose ? Le monde vit par la convoitise, par la recherche effrénée de quelque chose que l'on n'a pas, même si on l'a. C'est la crainte de manquer. La réaction divine est encore une fois la mise à l'épreuve de la foi de ces nouveau-nés spirituels que sont ces Israélites tout juste sortis d'Égypte. Ils vont avoir de la viande le soir et du pain le matin, le lendemain matin. Et la livraison sera une fois de plus un miracle extraordinaire, car le pain ne sortira pas de la terre, du blé, mais le pain, comme la viande, viendront du ciel. Je disais tout à l'heure que l'on peut légitimement se poser la question au sujet des cailles. S'agit-il ici, dans Exode, du même épisode que dans Nombre chapitre 11 ? Certains en doutent. Dans notre passage, les cailles ne font pas visiblement l'objet d'une réaction négative des Israélites. Les volatiles arrivent entre les deux soirs, c'est-à-dire au crépuscule. Et dans la tradition juive, le crépuscule, ça va de 15h à 18h. C'est assez long. On est au Moyen-Orient, et entre les deux soirs, tout comme d'ailleurs ensuite dans le Lévitique, on parlera du sacrifice perpétuel qui devait être offert le matin et le soir, entre les deux soirs, curieuse expression pour désigner le crépuscule, eh bien, ici, les volatiles arrivent entre les deux soirs. Et ils sont consommés sans autre précision dans notre texte de l'Exode. Tandis que dans le livre des Nombres, le murmure des Israélites au sujet de la viande contient une allusion à la manne, dont ils sont en apparence dégoûtés quand ils disent « Nos yeux ne voient que de la manne ». S'il avait s'agi du même épisode, ils ne pourraient pas dire cela, tandis que dans Exode, la manne ne leur sera dévoilée que le matin suivant. Peut-on seulement imaginer que dans l'Exode, d'ailleurs, cet épisode si marquant des murmures et de l'affaire des cailles soit purement et simplement biffé? Le miracle de la viande, puis du pain, est à mon sens symbolique de la providence divine et du projet divin pour le salut de son peuple. Le pain du ciel, la manne, n'est pas ici seulement présenté comme une nourriture satisfaisante pour le corps. Elle vient du ciel et, de fait, exprime le don de la parole divine que l'on doit manger pour satisfaire sa soif spirituelle. Bien plus, le texte introduit la manne dans le cadre d'une nourriture quotidienne que Dieu donne en quantité suffisante pour chaque jour. Et le Shabbat est ici au cœur de l'épreuve et le témoignage de la fidélité et de la foi du peuple. On retrouvera d'ailleurs cette même idée dans Ésaïe 58 au sujet de ce Shabbat comme étant le critère ou le signe de l'obéissance et de la foi du peuple. Nous sommes bel et bien placés dans une perspective spirituelle fondamentale. Le pain symbolise la parole de Dieu que Dieu enverra ensuite par Yeshua quand il dira dans Jean 6, verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dire « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Yeshua leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ici, on n'est plus dans le registre de la nourriture physique, mais plus de faim et plus de soif spirituelle. Au sujet de la viande et donc des cailles, pourquoi n'avoir pas choisi tout simplement de faire surgir du désert, je ne sais pas, un immense troupeau de bisons, histoire de nourrir tout ce peuple? Eh bien non. Il fallait que cette viande vienne également du ciel. La viande est celle du sacrifice en provenance du ciel, comme le pain qui plus est entre les deux soirs, tout comme le sacrifice perpétuel et le sacrifice de Yeshua. Tout est dit et l'on peut comprendre le sens spirituel profond de la rébellion d'Israël dans le livre des Nombres quand celui-ci regarde avec dégoût cette manne quotidienne et qu'il se jette avec avidité sur les cailles sans verser même le sang au préalable. Quel décalage entre Exode et Nombre. Au verset 10, Dieu apparaît dans sa gloire à tout Israël. Qu'ont-ils vu dans cette nuée, la Shekhina, la présence de Dieu? On ne saurait vraiment le dire. Quelque chose de bien moins terrifiant en tout cas que ce qu'ils verront en haut de la montagne du Sinaï quelque temps après. Peut-être la certitude que tout cela avait un sens dépassant simplement la satisfaction de leurs appétits immédiats. Poursuivons et terminons avec Exode 17, versets 1 à 9. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Une fois de plus, on est tenté de le dire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Vous voyez que les troupeaux sont là encore. Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, ton bâton, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriva, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël. On enchaîne comme ça, sans transition, verset 8. « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Voilà encore une fois un nouvel épisode de rébellion, et c'est assez incisif, c'est assez dur. Un épisode de rébellion, et on a l'impression que l'histoire se répète une nouvelle fois. La soif presse le peuple, et une fois de plus, le peuple doute de la présence même de Dieu au milieu d'eux. Comment est-ce donc possible, après tous les miracles dont ils ont pu être témoins ? Nous en arrivons à une autre perspective prophétique, à mon sens, au sujet du salut d'Israël et de son Messie. Et pour répondre à la contestation du peuple et de ses doutes, Dieu demande à Moïse de prendre sa verge et de se diriger vers le rocher d'Horeb. Précision au passage, au verset 5, comme si Moïse avait pu avoir un doute, il lui demande de prendre la verge avec laquelle il avait frappé le fleuve d'Égypte. Ce petit qu'il ait eu plusieurs verges dans son bagage, j'en doute. Le bâton est donc l'instrument du jugement. Va-t-il frapper le peuple pour sa rébellion ? Eh bien non. Il doit au contraire frapper le rocher, car en frappant le rocher, l'eau en jaillira pour le salut du peuple assoiffé. Le rocher n'est autre que le Messie annoncé qui doit être frappé pour délivrer le salut au peuple, comme le dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Messie. » Pour Paul, ce rocher d'où a jailli cette eau qui a abreuvé le peuple n'est qu'une image spirituelle du Messie qui doit être frappé, du jugement qui aurait dû être destiné au peuple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lieu où est frappé le rocher est le lieu de la contestation. Dieu est-il vraiment au milieu de nous ? Le lieu où le peuple s'est rebellé, où il a douté de la présence divine en son sein. Le Messie qui est frappé pour le salut du peuple va renverser l'incertitude pour la transformer en certitude. Et tous ceux qui se confieront dans le rocher ne douteront plus de la présence divine en leur sein. Le verset 8 enchaîne brusquement sur ce qui peut apparaître comme la conséquence peut-être du choix rebelle du peuple, la guerre à ses portes. Mais on peut aussi imaginer que le salut du peuple ainsi prophétisé augure une guerre spirituelle, incarnée par la lutte contre Amalek. Israël y tiendra une place de choix dans une victoire finale et totale contre cet adversaire symbolique, là encore la verge de Moïse et l'instrument du jugement. Alors il nous faut conclure, et une fois de plus, on n'en finira pas de méditer sur ces textes de la Torah qui nous semblent si familiers, mais qui évoquent de manière voilée le projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Cette paracha demeure à la fois connue sous l'angle du récit, mais peut-être bien peu sous l'angle prophétique qu'elle recèle. On aurait pu encore parler longuement et réfléchir à cette manne conservée par Aaron dans l'arche pour les générations futures. Il n'est pas ici de fait plus marquant que cette triple révélation du texte à la fois narrative, prophétique et spirituelle pour notre foi personnelle de tous les jours. Eh bien, puisse le peuple d'Israël goûter à cette manne céleste en ce Shabbat.